Bonsoir à toute l'équipe, Sancho à Cancale. Merci encore pour ce témoignage là, de ce soir, lundi, là, sur les maisons de redressement ou comme on voudra les appeler. Voilà, c'était vraiment émouvant et d'entendre une personne de plus de 90 ans s'exprimer ainsi, on doit tous rêver à la rigueur, malgré un parcours pareil, de pouvoir avoir une vision aussi claire des choses. Voilà. Merci encore d'arriver à recueillir des témoignages pareils. Voilà. Ça donne envie de continuer de se battre au jour le jour. Merci.
Si on veut avoir une idée assez précise des bagnes pour enfants, il faudrait se pencher sur le livre de Marie Rouanet, qui a écrit « Les enfants du bagne », qui est un livre très édifiant sur ce problème-là. Merci pour vos émissions. À bientôt.
Moi, je sais que ce que vous racontez au sujet des maisons de redressement, et ça c'était pas fini en 1946. Parce qu'il y en avait encore une, c'était chez M. Gérard, à Chaville, à côté de l'ancien presbytère de Chaville, la grande maison. Ça a existé longtemps, ça. Le bonhomme, il faisait marcher les gosses à coups de bâton. Et ils avaient à manger une fois sur deux. C'était dégueulasse. Il était maire du pays, vous pensez. Alors, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Il avait le droit et personne ne disait rien, parce que aussitôt qu'un enfant voulait dire quelque chose, on lui foutait des coups pour qu'il ferme sa gueule. C'était comme ça ça marchait encore en 46. J'ai même pas si ça n'existe pas encore. C'est un certain Gérard. Monsieur Gérard. Allez, au revoir.
Bonjour, c'est Vincent. Bravo pour l'émission de Raoul Léger. Je suis tenu au bord des larmes dans ma petite voiture. Tout va bien pour moi et je pense que c'est 45 jours dans un trou au pain sec et à l'eau. C'est impressionnant. Et j'espère qu'on n'y retournera jamais, nous, puisque moi je suis né du bon côté de la cuillère, je peux le dire. Enfin, je vous remercie pour l'émission que vous faites, c'est remarquable et sans tirage de pompe. Voilà. À bientôt.
Alors voilà, quelques messages sur le répondeur de la base J'y suis suite au reportage d'hier, le reportage de Thierry Scharf avec ce témoignage étonnant de Raoul Léger, 92 ans. Qui se souvenait de cette fameuse maison de Maitray dans l'Indre-et-Loire où 10 000 enfants sont passés entre 1840 et 1937. Cette colonie agricole, le mot redressement n'était pas employé, enfin, mais on savait très bien de quoi il s'agissait. Pourquoi ça ? Bien parce que, vous le savez, on a eu des lois nouvelles ces temps derniers, notamment concernant les délinquants mineurs, et on s'est intéressé à ce sujet. Pourquoi en ce moment ? Mais parce que personne n'en parle. Faut-il s'intéresser au volcan quand ça explose ou bien quand ça bouillonne dans le chaudron? On a préféré s'intéresser au bouillonnement dans le chaudron, mais on a commencé par une marche en arrière, aller voir un petit peu comment ça s'est passé auparavant, et c'est ce qu'on va faire à nouveau aujourd'hui en se rendant à Savigny-sur-Orge où il y eut pendant un certain temps, alors là c'est plus proche de nous, dans les années 50, un centre d'observation où certains délinquants sont passés, et on va avoir un témoignage d'un de ces délinquants qui est passé par cet endroit, et puis on va retrouver notre historien monsieur Ivorel qui va évidemment faire des rapprochements possibles ou impossibles entre ces temps qui semblent révolus et qu'on voudrait voir révolus et notre aujourd'hui. Mais auparavant, autre message sur le répondeur de la base. J'y suis, j'articule bien. 01-56-40-37-37. 01-56-40-37-37.
Ton émission de cet après-midi, là, sur les camps de concentration, on va dire, pour enfants, parce que c'est même plus des prisons ou des bains, c'est des camps de concentration, pour moi. Bon, ça m'a vachement ému. Moi, je suis en train de chercher de monter une action là, sur La Roche-sur-Yon. J'ai déjà pris contact avec les gens du syndicat administratif parce que la responsabilité pénale a été abaissée jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a le droit d'emprisonner maintenant le gamin de 10 ans. Et bon, j'aimerais que des gens de Vendée me contactent pour monter une action. J'ai de bonnes relations avec la presse, etc. Je me chargerai de tout le boulot. Je ferai intervenir les syndicats, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui me soutiendront aussi bien à la CGT qu'à la Confédération Paysanne, etc. Il n'y a pas de lézard là-dessus. On est d'accord.
Maurice Papon, Nathalie Milligan, il n'y a que la rime de commune. Car même si on ne peut cautionner le romantisme meurtrier totalitaire d'Action Directe, l'un est dehors, l'autre est dedans. L'un est de la France en haut, l'autre est de la France en bas. Elle était de ceux qui abattirent un général et un PDG, lui n'a fait que participer à l'élimination d'enfants et de vieillards de la France d'en bas, des juifs en plus. Et elle a une autre circonstance aggravante, elle n'est pas nationaliste corse.
Petite réflexion à dessous, comment avec deux rédactions différentes, hein, deux équipes de journalistes différentes, peut arriver à faire un journal quasiment identique, hein, n'est-ce pas, voir les journaux de France 2 et TF1, le soir à 20h, comme d'ailleurs à 13h, n'est-ce pas, monsieur Bidalian, hein, on fait parler des vieux avant de les laisser crever l'été, voilà. Et sinon votre site, là, le site pirate internet, où d'ailleurs je peux écouter toutes les émissions des années précédentes, qui sont vraiment sympas, notamment les émissions Répondeur, que j'aime beaucoup, voilà, donc super site, sympa, on peut enregistrer, stocker. Voilà, et ben bonne continuation à tous, donc c'était Lilian d'Alsace, et à bientôt, ciao.
Certaines personnes prétendent que tout est une question de point de vue. Si cela est vrai, alors cette théorie est elle-même une question de point de vue. Il m'est alors possible d'affirmer, sans être en contradiction avec cette théorie selon laquelle tout serait une question de point de vue, que non, tout n'est pas une question de point de vue, ce qui est en contradiction avec cette même théorie. Donc, d'après cette théorie, il est tout à la fois vrai et faux que tout soit une question de point de vue, ce qui est donc un point de vue devenu impossible. Ce qui n'est donc plus un point de vue. Donc, la théorie selon laquelle tout serait une question de point de vue est fausse.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Sharp. Là-bas, si j'y suis, peine perdue.
Flight number 2. Arriving from...
Heure de mauvais sang fait en l'an. Dis-moi toutes mes affaires là.
Fermeté. Fermeté. Fermeté, fermeté, fermeté contre la délinquance, fermeté contre les zones de non-droit, fermeté contre l'insécurité, fermeté, bravo, formidable. On s'est dit, voilà, alors là, ça y est, cette fois-ci, on va assister à des actions fermes, c'est-à-dire une lutte contre la délinquance économique, par exemple, contre la délinquance financière, contre la délinquance environnementale, contre les infractions à la législation sur le travail. Oui, non ?
Ah non, 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 je comprends rien du tout, on n'a rien compris du tout. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Il s'agit d'une fermeté envers la petite et moyenne délinquance. La loi du 9 septembre 2002 en matière de jeunesse, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, crée des centres éducatifs fermés pour délinquants mineurs. Et pourquoi donc ? Eh bien, pour le bien, pour le bien, pour soustraire les jeunes à la prison et aux violences familiales. Contre quoi s'élèvent, bien sûr, on les a entendus, des professionnels, par exemple les professionnels de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Mais peu importe, c'est en route, c'est en acte, et la question qui se pose, c'est à quoi ça sert ? Oui, quels sont les résultats ? Comment sort-on de ces endroits ? Quel est le sens de tout cela ? Depuis que la prison existe, la prison est critiquée. Depuis que la prison existe, on se demande à quoi ça sert. Quel est le sens de cette peine d'emprisonnement ? Ça paraît énorme de poser cette question. Ça paraît archaïque de poser cette question. Ça paraît angélique de poser cette question. Mais quand même, la question se pose, qu'on le veuille ou non. Alors, il y a un courant qui aujourd'hui est bien silencieux, mais qui existe cependant, qui voudrait abolir la prison. Oui, 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 il y a des gens encore dans ce pays pour vouloir abolir la prison. Il y en a plus prudents, moins extrêmes, qui veulent réduire la prison. Réduire le nombre de détenus dans les prisons. C'est pas le cas de la majorité. Et c'est pas le cas de la politique actuelle, puisqu'en 2 ans, on a 20% de plus de détenus dans les prisons françaises. 20%. Il y a 2 ans et demi, on pensait qu'arriver à 50 000, c'était la honte, c'était une limite qu'il ne fallait pas dépasser. Aujourd'hui, 20% de plus de 60 000 détenus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à la fois les jeunes, les mineurs, et le passé, pour voir s'il n'y a pas eu des expériences comparables à celles conduites aujourd'hui. Et s'il y a eu des expériences comparables, y a-t-il des conclusions qu'on pourrait tirer ? Voilà pourquoi nous sommes à Savigny, nous sommes à Savigny-sur-Orge, dans le centre d'action éducative, dans un centre d'action éducative. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça et ça sert à ça, un centre d'action éducative dirigé par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Mais autrefois, ce centre où nous sommes était un centre d'observation. Et un centre d'observation qui était destiné à recevoir des mineurs pendant une période de 3 mois, à l'issue de quoi le juge des enfants décidait de leur orientation. Et cela a suivi la fameuse ordonnance de 1945 qui prévoyait de l'éducation à la place de la répression. C'est toujours 2 notions qui se chevauchent, qui luttent l'une contre l'autre et qui ne font pas toujours bon ménage. La fameuse ordonnance de 1945 prévoyait l'éducatif avant le répressif. Dans les décisions récentes, cette loi, cette ordonnance de 1945 a été contestée et mise à mal, et elle est défendue par ceux qui, par les éducateurs eux-mêmes, et par ceux qui pensent que il faut éduquer avant de punir. Notion importante, débat ancien, mais aujourd'hui on va le voir dans le rétroviseur. On va le voir à travers la mémoire, une mémoire, mais aussi des documents anciens, des documents qui datent de ces années 50, à travers lesquels on voit les intentions qui étaient celles qui présidaient à l'établissement de ce genre de centre, d'observation, et on va voir qu'il y a des analogies dans les intentions, dans les ambitions, dans les prétentions entre hier et aujourd'hui.
passer la prison si elle est là que pour un autre futur contre ses murs. À quoi sert la prison si elle n'est là que pour un autre futur contre ses murs. Dans ma tour l'ondule les ondes, celles qui vont t'omnubiler, se transformer en pitbull, toi qui n'étais qu'un roquet. Sauvagerie sans équivoque, soit tu restes sous le choc, soit le sort bien pire qu'avant, hors du trou mais encore fonçant. À quoi sert la prison si elle n'est là que pour un autre futur contre ses murs. À quoi sert la prison si elle n'est là que pour un autre futur contre ses murs. Un petit gars saute le mur pour piquer quelques dorures. On l'attrape par la queue, on le montre au juge.
Messieurs, trempez-le en tôle, collez-le au trou, direct au cachot.
Tant pis si la morve stupide peut devenir terrible. Pourtant les bons remèdes de la prison, de la prison, te rendent moins connaissant. Devenir un bon petit gars moins souillant,
moins souillant.
Oh, voilà un tigre sous pression. Prison si elle n'est là que pour rendre plus dur entre ses murs. Un petit gars saute le mur pour piquer quelques dorures. On l'attrape par la queue, on le montre au juge.
Messieurs, trempez-le en tôle, collez-le au trou, direct au cachot.
Tant pis si la morve stupide peut devenir terrible. Comment trouver une réelle solution,
une solution
qui rend juste et efficace la prison. Comment faire pour juguler cette pression,
cette pression.
Pour être agressif un petit mouton. Question à la qu'à trop souvent on répond.
Qu'est-ce qu'on répond?
Qu'il crève, c'est pas nos oignons.
Ramasser la prison si elle n'est là que pour rendre plus dur contre ses murs.
Les crédits sont inexistants. Monsieur Dallène, l'un des pionniers de la réforme, a dû créer le centre en utilisant des baraquements misérables, baptisés pompeusement pavillons. Mais à défaut de confort matériel, les garçons trouvent ici la chaleur humaine. Ils voient se pencher sur eux des éducateurs qui ont consacré leur vie à les comprendre, à les aider.
Ce couloir, c'est on appelle ça l'accueil. C'est là qui font la réception des jeunes qui viennent du palais, qui ont été soit arrêtés pour vol ou.
Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé là dans ce couloir?
Oui, je me souviens. Là, j'ai passé 2 semaines à l'accueil. L'accueil sert à essayer de vous détecter. Oui. C'est de connaître votre comportement.
Donc vous êtes resté 2 semaines là dans des. On est dans un couloir avec de chaque côté des portes solides et avec comme des petits cachots. Quoi.
Oui, ce sont des cachots. Ce sont des cachots.
Très étroits.
Le soir, c'était très dur. Hein. Les nuits, là, les gars qui étaient avec moi, ils pleuraient. Les nuits, on pleurait. On se demandait le lendemain matin ce qu'est-ce qu'il allait nous
dire. Vous avez quel âge?
J'avais 14 ans.
14 ans, là, quand vous êtes arrivé ici.
Je suis arrivé ici, j'avais 13 ans et demi. J'ai fait à peu près 1 an ici, après j'ai été transféré à Belle-Île-en-Mer dans un magne d'enfants, 3 ans.
Pourquoi vous êtes arrivé là?
Eh bien, je suis arrivé là parce que j'étais pupille de la nation. J'ai été abandonné, j'avais 6 ans, et de là, bon, j'étais transbahuté de nourrice en nourrice. À 11, 12 ans, je travaillais en ferme, dans le nord de la France, exploité, puis un beau jour, je me suis sauvé. À travers champs, puis ce sont les gendarmes qui m'ont pris, et puis de là, eh bien, je suis rentré dans un autre système, hein, le système judiciaire, et puis c'est infernal pour moi, parce que ça a duré jusqu'à près de 18 ans.
Voilà, ça s'est passé en 1959 à Savigny-sur-Orge, c'est dans la toute proche région parisienne, dans la banlieue de Paris. Et celui qui parle s'appelle Jean Fayard, ou Chassant, on
il s'appelle aussi. Enfin bon, c'est Jean-Jean. En fait, c'est Jean-Jean. Il est né en 45, il a 58 ans aujourd'hui. Mais alors, ce qui s'est passé pour lui dans ces 3 mois à Savigny en 1959, c'est comme si c'était hier. C'est comme si il était toujours dedans. C'est comme notre témoin d'hier. Lui, c'était dans les années 20. Mais ces choses-là marquent définitivement. Alors, l'ambition, la prétention à éduquer, à réintégrer, ne peut être qu'un alibi, quelque chose qui apaise les mauvaises consciences, ceux qui sortent de là, et la chanson d'Adji Lazaro le dit très très bien, ce sont la plupart du temps eux qui ne sont que des qui n'étaient que des roquets en sortiront transformés en pitbull. Et la question qui se pose, qu'on le veuille ou non, que ce soit à la mode ou pas, que ce soit le moment d'en parler ou non, la question est là depuis on va dire 2 siècles, hein, pour pas trop remonter dans le temps, un peu plus de 2 siècles. Eh bien, c'est à quoi sert la prison. Alors là, mais donc aujourd'hui, c'est un musée où nous sommes. C'est le musée de la protection judiciaire de la jeunesse, et c'est le musée qui est un musée qui est animé par quelqu'un qu'on connaît dans la basse Gisui, qui est Jean-Luc Enaudi, l'historien Jean-Luc Enaudi. Il est aussi un collaborateur de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est un des sujets sur lesquels il travaille, et il s'intéresse en profondeur, évidemment, avec toujours cette opposition entre le répressif et l'éducatif. Témoignage de Jean-Jean.
Dans les cellules, voilà, ça c'était ça.
Là, on est dans une cellule, ouais.
Oui.
Alors, c'est tout petit, hein, ça fait quoi? Ça fait 1 mètre carré et demi, même pas.
Oui, la cellule...
Et la place d'un lit, quoi.
Alors, quand vous êtes un enfant, vous vivez là-dedans, les journées sont très dures, les nuits, il y a de quoi sous en l'air. Vous imaginez, vous, je veux dire, 50 ans en arrière, dans la peau d'un enfant de 12-13 ans, hein, qui passe 2 semaines dans une cellule comme ça, je veux dire, tout était approprié pour démolir un enfant. C'était une maison de correction, hein. Maison d'éducation surveillée, c'est un grand mot, hein. C'était vraiment la maison de correction ici. C'était la prison. C'est une prison ouverte, mais c'était une prison, parce qu'on était enfermé en permanence. En permanence, on était enfermé. Et le personnel, à mon époque, qui travaillait là, il faisait pas de cadeaux. Hein. C'était des torgnoles, des coups de bâton sur la tête. Il fallait marcher droit. Hein. C'était la régime caserne. C'est comme ça. On était considérés comme de la merde. Personne pour nous sortir de là. Hein. Il y avait personne pour nous protéger. Alors on est entre les mains d'un juge, entre les mains du centre, on ne sait pas quoi faire.
Autant que sur leur santé morale, on veille sur la santé physique des jeunes. Et le médecin attaché à l'établissement passe souvent.
Alors Jean-Jean revient sur les lieux, comment dire, d'un crime qu'il n'a évidemment pas commis, à part celui d'exister, d'être un môme mal barré, qui essaye simplement de survivre et qui se retrouve dans cet endroit-là. Comment est-on passé des bagnes d'enfants ou des colonies donc qu'on a évoqué d'hier jusqu'au centre éducatif fermé d'aujourd'hui? Il y a tout un cheminement, il y a toute une histoire dans laquelle notre société, notre monde, notre pays, mais enfin pas seulement notre pays, se reflète. D'où l'intérêt pour comprendre ce parcours, est-ce que ça dit de nous et de notre mémoire de se tourner vers historien comme Jean-Jacques Ivorel, qui est responsable de l'association pour l'histoire de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs, et qui est en plus, écoutez bien, membre du Centre National de Formation et d'Études de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Jean-Jacques Ivorel.
Le centre de Savigny, c'est un centre d'observation. de l'éducation surveillée. C'est-à-dire que en 45, on a quand même l'idée que pour bien éduquer ces mineurs, il faut d'abord bien les connaître. Alors on va créer des centres d'observation où on va donc regarder quelle serait la meilleure orientation possible pour ces mineurs. Mais ces institutions créées juste au lendemain de 45 gardent des institutions, des maisons de correction type maîtresse, gardent un certain nombre de caractères. À Savigny, il y a par exemple un mitard qui fonctionne jusqu'en 1970. Les pratiques, on va dire, de pédagogie frappante sont assez fréquemment utilisées.
Hein. Vous appelez pédagogie frappante
l'usage de la violence physique comme méthode éducative, hein, pour faire rentrer les gens dans l'ordre. Bon, qui sont des méthodes qui viennent de l'univers carcéral.
C'est des enfants qui ont quel âge qui passent là?
C'est des adolescents, donc qui ont entre 13 et 18 ans.
Est-ce qu'on est avec Savigny dans le prototype du centre fermé?
Jusque dans les années 60, ça reste un centre fermé. Les contacts avec l'extérieur sont extrêmement limités. Hein. Et puis, ça va se modifier petit à petit. Hein. Mais à l'époque où Jean Fayard y passe, ça reste en effet un établissement très peu ouvert sur l'extérieur.
Alors, on y reste combien de temps?
3 mois, en principe. 3 mois pendant lesquels on observe votre comportement dans les ateliers, en sport, au groupe, ce qu'on appelle, donc la vie de groupe. C'est un système qui tourne un peu en rond parce que on veut une observation qui se veut scientifique, mais le problème est que comme c'est une institution fermée totale, on y retrouve les phénomènes de sous-culture de l'enfermement. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe finalement le rapport à l'institution, le rapport à l'enfermement. Ce qu'on finit par observer, c'est l'adaptation du rat à sa cage.
Moi, j'avais été mis au service général. C'est-à-dire, pour moi, c'était une occasion de pouvoir m'échapper dans le centre.
C'est quoi le service général?
C'est s'occuper des poubelles, balayer les allées, et ça me permet d'aller à droite et à gauche. Voilà. Et je suis parti 4 fois de Savigny, je me suis échappé, et 4 fois...
4 fois vous vous êtes échappé?
Oui, et 4 fois repris. Mon but, c'était de retrouver ma mère. Hein. Ça a toujours été ça, hein, parce que je parle toujours de ma mère. Et comme un psychiatre disait, mais il parle toujours de sa mère, il va toujours voir sa mère, parce qu'il s'attend toujours un jour à avoir une caresse de sa mère qu'il n'aura jamais. Quand je partais de Savigny, c'est ce que je trouvais pas juste, c'est qu'on me reprenait, quand j'arrivais ici, on me mettait une toise, hein, mais il cherchait pas à savoir le pourquoi du comment. Je ne partais pas pour la liberté, je ne partais pas pour aller voler, je partais pour retrouver ma mère. Imagine quand on arrivait là-dedans et on te foutait là-dedans, ouais. Entre nous.
Ouais, c'est sinistre.
Et puis attention, les murs ici, c'était crade et tout. Alors là, c'était des lits qu'il y avait. C'était ça, toi.
Ouais.
Il y avait ça.
Joli en métal. Là.
Lit en métal, et puis il n'y avait pas de tabouret. Il n'y avait pas de tabouret, puis tu étais sur le lit à attendre la journée, à te faire chier, et puis...
On pouvait faire 3 pas là-dedans, dans ces cellules-là.
Ouais, bah tu faisais 3 pas, tu marchais comme ça.
Ouais.
Tu faisais 3 pas, tu repartais dans l'autre sens, et puis tu passais ta journée là.
Voilà. Avec une fenêtre, avec des barreaux intégrés, ouais, la fenêtre.
Ouais, voilà. Bon, ben... Hein, c'était pour nous casser, pour nous dire qu'ici... Puis alors, mon retour de fugue à chaque coup, on arrivait avec le fourgon, c'est-à-dire quand les gendarmes me reprenaient, ils appelaient le juge qui se trouvait au Grand Palais à Paris, on a retrouvé Chassant. Le palais, il prévenait Savigny, on l'a retrouvé. Alors vous vous doutez bien qu'ici, on m'attendait
de pied ferme.
Alors quand le fourgon arrivait, alors l'angoisse pour moi, quand je repartais du palais, je montais dans le fourgon, puis on m'amenait sous le porche. Et quand la porte arrière s'ouvrait, puis qu'il me chopait, là, il me rentrait dans un local qui se trouve juste à l'entrée du porche, et là, il me bastonnait, et il me traînait dans la cour jusqu'au mitard. Il m'attachait au radiateur, et là, il nous frappait, et il me traînait jusqu'au mitard.
Vous attachez au radiateur?
Oui, on était attaché au radiateur pour pouvoir se défendre. Alors, il nous frappait, et puis il nous emmenait dans le mitard, et puis là, bon, ben, là, on pleurait, et puis c'était dur. Hein. C'est le mitard, c'est pas gay, le mitard.
Les éducateurs qui tiennent un peu le rôle de père de famille mangent au réfectoire du pavillon dont ils ont la charge. L'un des problèmes épineux est celui des sanctions. Il faut éviter de provoquer les agressivités, mais en même temps maintenir la discipline. On utilise les punitions scolaires traditionnelles. Copie, verre à apprendre et même le piquet. Pour les cafards, on a la ressource du cachot, redouté même des durs. Pour 10 jours, il faut une autorisation spéciale du ministre de la Justice. Autre problème délicat, éviter les fuites à nuit. En effet, fort peu de garçons profitent des occasions qui s'offrent à eux le jour de s'en aller sans beaucoup de difficultés. Ils recherchent le romantisme d'une évasion nocturne avec complications gratuites. Être éducateur n'est pas toujours sans danger. À l'époque où était pris ce film, l'un d'entre eux fut assommé d'un coup de tabouret pendant son sommeil par un garçon venu lui voler ses clés à 4 heures du matin. Pourtant, pendant longtemps, les éducateurs ont couché au centre, dans une chambre voisine du dortoir, et jamais fermé à clé.
Bon, et ben on dormait avec une couverture. Les couvertures, c'était des couvertures épaisses, piquantes sur la peau. Alors, il n'y avait pas de chauffage, on dormait à poil. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on mangeait un repas sur deux. C'était une journée on mangeait, une journée on mangeait pas. Une journée on mangeait, une journée on mangeait pas. Puis bon, eh bien les jeunes, eh bien ils se masturbaient sur les paillasses. Et puis on, le soir, quand on prenait notre paillasse, hein, c'était pas la paillasse qu'on avait eue la veille. Bon, puis il y avait eu des tas de gars qui avaient tourné. Hein. Voilà, il y avait des taches de sang dessus, des taches de sperme. Il y en avait qui avaient même fait leurs besoins sur les paillasses. Et puis on, avant de poser la paillasse, on touchait toujours avec la main pour savoir si c'était mouillé ou pas. On la retournait et puis voilà. Et puis c'est arrivé aussi qu'ils nous mettent la nourriture dans des bassines où tout était mélangé. Là-dedans, ils vous glissaient ça par terre comme un chien.
14 ans, ça.
Voilà, 14 ans.
Et il y avait des plus jeunes.
Ah oui, des jeunes qui avaient 12 ans qui étaient là. Ah oui, non, mais c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on m'explique, hein, l'homme où il est, hein, le chien, il a pas bougé, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Fallait qu'on en bave, il ne cherchait pas à savoir pourquoi on était là. Il ne cherchait pas à savoir. Parce que moi, je n'ai jamais eu l'âme d'un enfant méchant. Je suis plutôt sentimental, j'aime pas voir quelqu'un de malheureux. Bon, avec moi, on m'a fait les pires misères.
Ici?
Oui, ici, et puis ailleurs. Et puis, depuis que ma mère m'a, comme dit à l'autre, m'a pondu, j'ai souffert. J'ai rencontré que des gens méchants. Bon, et puis voilà, je suis vraiment écœuré. Je suis arrivé au bout du rouleau, moi. Je suis arrivé au bout du rouleau.
Aujourd'hui, là?
Oui, aujourd'hui. Je vais pas me suicider, mais si ça pouvait s'arrêter... Alors j'en veux... Je veux dire, à mon époque, au gouvernement de l'époque, quand je vois des ministres aujourd'hui qui ont mon âge, ou des gens qui ont été ministres, et qu'aujourd'hui, bon, ils sont très âgés, et puis qu'à cette époque, j'ai vécu cette misère qu'ils étaient en place, je suis vraiment écœuré. Écœuré qu'ils ne disent pas qu'ils étaient pas au courant, ils étaient au courant, ils s'en foutaient. Il y avait de l'abus dans tout. On allait même faire le larbin chez les gardiens, chez eux, dans l'immeuble où ils étaient logés, dans Savigny. On allait frotter leur parquet. Ah oui, mais on était considérés comme des merdes.
Quand ils quittent le centre, on a fait tout ce qu'on pouvait pour trouver comment l'aider à conquérir une place dans la cité des hommes.
Ambition de ce centre pour centre d'observation pour les mineurs. Vous entendez ces documents qui datent et qui évoquent les années 50. tel que c'était présenté, tel que c'était souhaité, pourquoi douter de la sincérité de ceux qui avaient mis ça en place, et tel que ça a été vécu, tel que c'est aujourd'hui dans la mémoire de Jean-Jean. Alors, la question du répressif ou de l'éducatif hante toute l'histoire des jeunes et de la prison, de la délinquance juvénile. La répression a aussi une valeur pédagogique, s'exclamait il y a peu de temps Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est pas tout à fait l'avis de Jean-Jacques Ivorel, notre historien, quant à l'efficacité de ces méthodes.
Ces méthodes, elles n'ont pas prouvé leur efficacité, ce que peut dire l'histoire. Ce qu'elles ont prouvé, c'est leur inefficacité. Elles n'ont cessé de prouver leur inefficacité, ces méthodes d'enfermement, notamment en ce qui concerne les mineurs.
Elles permettent de maintenir l'ordre, c'est déjà ça de prix.
Non.
Non.
Non, elles permettent pas de maintenir l'ordre. Elles permettent de satisfaire une demande sociale d'apparence de maintien de l'ordre. Un petit détour historique. La masse des délinquants du 19e siècle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les enfants des rues. En France. Bon, c'était des enfants des rues, l'équivalent des enfants des rues, des enfants de Bogota, ou qu'on voit dans le tiers-monde aujourd'hui. Ce qu'était le gamin de Paris, au 19e siècle. Alors, tant qu'on a voulu traiter individuellement cette question de cet errant juvénile, alors, gamin victime, ce qui n'en faisait pas des anges. Ces gamins étaient tout sauf des anges. Victimes d'un ordre social injuste, certes, mais sûrement pas angéliques pour autant. Je sais pas pourquoi il faut toujours que les victimes soient d'innocentes victimes, de malheureuses victimes ou de pauvres victimes. Non, non, les victimes sont des victimes, mais c'est pas pour autant qu'elles sont sans forcément
vertueuses. Oui.
Vertueuses, hein. C'est, on peut être victime et pas vertueux du tout. Hein. Pour survivre, ils étaient capables de faire des choses d'une incroyable violence, d'être extrêmement agressifs, etc. Bon. On a essayé de résoudre par ces maisons de correction ce problème. C'est eux qui font l'immense masse des 10 000 enfants qui sont enfermés dans les maisons de correction pendant le Second Empire. Mais c'est pas ça qui va résoudre cette question sociale de l'errance juvénile. Ce qui va résoudre la question sociale de l'errance juvénile, c'est les lois scolaires, un enrichissement général de la population, les lois sur le travail des enfants, etc. C'est ces ensembles de lois qui vont résoudre le problème de l'errance juvénile et qui fait que Paris n'est plus Bogota. Actuellement, la population qui est visée, faut pas se masquer les yeux, c'est la population, les technocrates disent, des zones périphériques d'habitat social, des cités. Et c'est la population bronzée des cités qui est visée. Et c'est bien uniquement elle qui est visée. Alors, ce traitement éducatif peut solutionner les dérapages individuels de la déviance, elle ne résout pas les questions sociales. On ne résout pas une question sociale avec des traitements individuels. Vouloir résoudre un problème social par un traitement individuel, que ce soit de l'enfermement ou autre, on va à l'échec. Que ce soit d'ailleurs avec des centres ouverts ou des centres fermés, même si après je préfère les centres ouverts que les centres fermés. Là, ce qu'on veut faire actuellement, c'est résoudre une question sociale par le pénal. La seule chose à laquelle on peut aboutir, c'est l'enfermement de masse des mineurs issus de l'immigration.
Je deviens fou et je peux plus rester là. Le soleil mat perce à peine les vitres opaques de ma cellule. L'atmosphère est moite, autour de moi les blagues pullent. Le grillage aux fenêtres m'empêche de voir dehors. De toute façon c'est toujours le même décor, la même coupe, le même mirador. Face blême déphasée, au chichon défoncé. Je trouve la force de plaquer sur mon bloc donne mes pensées. Enfermé là, je fais les 100 pas, je pense aux dégâts que ces 10 ans vont causer dans ma vie dans les prochains mois.
Fais tort à l'intérieur et rien n'en sort, j'en souffre. La rage m'étouffe et je tombe comme une pierre dans le gouffre. Enterrée vivante dans la louverie, privée de souffle, j'ai appris à hurler. Pas comme l'agneau qu'on égorge, mais comme une louve affamée les mille. Proposition du hasard qui s'estompe mille. Plaies ouvertes chaque seconde et amorce le décompte. L'apprentissage de l'éternité. 100 jours, 100 ans, faut que j'appelle à compter.
Sache que ma vie, ici, je vis clos. On s'est fait piquer.
Vêtements, maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Pour combien de gens
réduit à une enfer.
Carcérale,
plus
surale.
On est là, dans ce vie clos. Infernal, on s'est fait piquer.
Vêtements, maintenant.
J'ai tout à fait mangé la gamelle.
Pour combien de
gens 10 ans.
Et les heures qui passent comme des désirs.
Je deviens fou et je peux plus rester là.
Tu vois, enfin la vie c'est pas normal.
putain. J'ai pas de chance. Et puis c'est pas tout.
Le matin, ils bandaient rien qu'à l'idée de sanctionner les jeunes, d'en avoir à sanctionner. Qu'on entendait tout fort 2 jours de mi-tard, 3 jours de mi-tard, 1 semaine de mi-tard. Puis celui-là, il va falloir le casser, il va s'en souvenir. Bon, casser quoi ? Hein ? Là, j'ai la haine. C'est quand tes gosses, ils rentrent là-dedans. Hein. C'est la galère. C'est les lits blancs, les barreaux, les gens méchants, les gens qui abusent de toi, qui t'exploitent, qui, parce que tu ne peux pas te défendre. Il y avait un pavillon en face qu'on appelait le pavillon Alsace, c'est là où on mettait les jeunes un peu efféminés. Eh bien, les gardiens qui étaient là, ils se les faisaient, hein. C'était connu dans le centre. C'était connu, hein. Les gens fermaient les yeux ici. Et moi, je me souviens, dans certains pavillons, il y en avait qui faisaient la femme pour certains jeunes. Et puis, il y avait certains gardiens, qui abusaient de gosses. À Belle-Île, j'ai connu ça aussi. C'était pareil. Voilà. Alors, bon, je crois qu'il y a de quoi être écœuré. Hein.
Chaque année pour Noël, les 8 pavillons du centre participent à un concours de crèche, révélant ingéniosité et inspiration.
Contraste entre la mémoire de celui qui est passé dans ce centre et les intentions affichées dans ce document de com, on disait pas encore le mot com à l'époque, quant à la fonction et au rôle de ce centre, c'est-à-dire un centre d'observation qui recevait donc les mineurs pour une période de 3 mois. Alors là, il y a eu une observation presque clinique, entomologique des jeunes afin de décider de leur avenir qui eh bien, selon l'historien Jean-Jacques Ivorel, ressemblait beaucoup à celui qui est promis aux jeunes qui sont aujourd'hui dans des établissements analogues, c'est-à-dire où on administre une réponse pénale à une question sociale. Je rappelle ces termes. Nous assistons, dit Jean-Jacques Ivorel, à l'enfermement de masse des mineurs issus de l'immigration. On retrouve Jean-Jean.
La vie dans ces grandes institutions va se structurer autour principalement de rapports de force. Et de rapports de force entre les mineurs et avec donc des surveillants, on peut pas les appeler des éducateurs, qui finalement vont s'appuyer sur ces rapports de force pour gérer le quotidien. C'est ça qui constitue le caïdisme. Hein. Des mineurs les plus forts physiquement ou les plus agressifs vont imposer une loi à leurs congénères, codétenus, et le système de surveillance, loin de lutter contre ce dispositif, va s'en servir pour gérer la discipline au quotidien. Une sorte de contrat tacite, je te laisse quelques avantages secondaires en termes de nourriture, de liberté, de etc., tu t'arranges pour que l'ordre règne dans ton groupe. C'est sur ça que repose donc cette espèce de caïdisme. Alors, qui provoque une souffrance terrible chez ceux qui en sont victimes. Il y a donc une sorte de paradoxe dans ces institutions. Et sur le papier, c'est des institutions disciplinaires où tout semble être réglé comme du papier à musique, chaque minute scandée par des tâches, etc. Et dans la réalité, c'est une jungle. Ce sont des institutions de désordre, dans lesquelles règne un grand désordre. Des institutions de non-droit, exactement comme la prison, comme toutes ces institutions totalitaires, où à la fois il y a ce projet d'une discipline extrêmement stricte qui génère en réponse une organisation réelle et concrète qui est l'inverse d'une discipline stricte, hein, qui au contraire est une loi de la jungle, repose sur le plus fort. C'est généré par l'enfermement et par ce genre d'institution.
Les jeunes entre eux, je veux dire, soit il y avait du copinage parce qu'ils habitaient dans la même région, le même secteur, sur Paris ou ailleurs. Mmh. Bon, il y avait des affinités qui se créaient, ou alors il y avait ta supériorité sur un jeune par rapport à un autre. Savoir pour pouvoir prendre de l'emprise dessus. Mmh. Soit l'emprise, essayer de... Soit par, c'était le sexe, ou ça pouvait être par les cigarettes, ou par autre chose. À table, quand on mangeait, il y avait le meneur de la table. Si on était, c'était des tables de 4 ou de 6, il y avait le meneur. Le meneur, c'est lui qui mangeait le bien, puis la merde arrivait au bout de la table, c'était pour le dernier. Il mangeait ou il mangeait pas.
Et au passage, il prenait, voilà. Il se servait.
Ah oui, c'était ça. Et puis, bon, il y en avait d'autres qui donnaient leur part, leur dessert, pour se faire défendre dans le centre. Pour avoir une protection, parce que dans chaque groupe, il y avait toujours un leader. Leader, il avait ses lieutenants, et puis, comme ça toujours existait, hein. Il y avait des règlements de compte dans les ateliers, ou dans des endroits où personne ne voyait, puis là, des fois, ça se terminait mal.
Jean, est-ce que tu dirais que ton passage dans ces maisons de redressement, elles t'ont été utiles?
Pour moi, ça a été inutile, hein. Parce que ce que j'ai retrouvé après, vers 20 ans, ça a été l'amour. J'ai connu une femme, et puis c'est ce qui a tout déclenché. Hein.
C'est ce qui t'a sauvé.
Voilà, mais si cet amour je l'avais eu avant, ben ça aurait été beaucoup mieux. Puis j'aurais pas connu tout ça.
La durée normale d'une observation est de 3 mois. Au bout de ce laps de temps, éducateurs, professeurs et psychologues qui ont suivi un garçon établissent sur lui un rapport de synthèse. Ce rapport est destiné à éclairer le juge et lui suggère une solution. Placement dans une institution publique d'éducation surveillée, dans un foyer de semi-liberté, ou remise à la famille.
Les résultats ont été extrêmement médiocres. Il y a eu des travaux, notamment de Christian Chanchez sur Savigny, sur le sous-titre de son livre, c'est l'impossible observation des mineurs de justice. Donc, on voit donc quel a été le résultat.
C'est la culture de l'éducation surveillée, c'est ça.
Ça joue un rôle extrêmement important, en effet, dans la culture de l'éducation surveillée, parce qu'il y a toute cette volonté de trier, de classer tous les mineurs en toutes sortes de catégories nosographiques, dont le summum était le pervers constitutionnel, pour lequel il n'y avait quasiment pas d'espoir. En fait, ce qu'on mesurait, c'était l'adaptation à l'établissement. C'est-à-dire que le mineur qu'on trouvait le mieux, c'était le caïd. Parce que le caïd, c'est celui qui s'adapte parfaitement à l'institution, qui ne pose pas de problème aux adultes de l'institution, et donc c'est celui pour lequel le pronostic est le plus favorable, hein. Le gamin qui ne supporte pas cette institution, sa violence, son homosexualité aussi, puisqu'on enferme ensemble que les garçons à un âge où l'identité sexuelle est en construction, celui qui ne supporte pas ce milieu et qui fugue va être considéré comme le plus perverti. Ceux qui posent le plus de problèmes au quotidien dans ce genre d'institution, ceux qui s'adaptent le moins, sont ceux qui refusent ce mode de socialisation à l'enfermement. Donc sans doute ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir. Ce sont des structures d'enfermement. Et toute structure d'enfermement a des effets, que ce soit la prison, l'asile, etc., crée non pas une désocialisation, comme on le dit souvent un peu rapidement, mais une sorte de sursocialisation, mais une socialisation au carcéral. C'est-à-dire que ça crée une sorte de sous-culture de l'enfermement, dont après il est extrêmement difficile de sortir, particulièrement appliqué à des enfants, puisque c'est la formation qu'on va leur donner, la socialisation qu'on va leur proposer, c'est une socialisation à l'enfermement, une socialisation à cette sous-culture du carcéral, qui finit par imprégner même la société générale, hein, la sous-culture du carcéral dans les modes, etc. Bon, enfin, le pantalon, la jambe de pantalon relevée, les pantalons à l'entrejambe très bas, etc. Tout ça, ça vient de la culture carcérale. Mais en enfermant, la seule chose qu'on fait, c'est de socialiser à l'enfermement, de socialiser à un mode de fonctionnement particulier que génère toute institution. Goffman disait totalitaire, pour éviter les confusions, on dit plutôt toute institution totale, c'est-à-dire ces institutions où les gens vont vivre 24 heures sur 24 dans un entre-soi, sans contact réel avec l'extérieur. Le mouvement qui avait été déclenché par l'ordonnance de 45, ça a été justement de désenclaver, mais qui en fait n'aboutit que dans les années 70, ça a été de désenclaver ces institutions et d'en faire des institutions ouvertes sur la société.
La fameuse ordonnance de 45 qui donne la prime à l'éducatif.
Alors, l'ordonnance de 45 donne une priorité absolue à l'éducatif. Elle reste quand même, faut pas se faire trop d'illusions, l'ordonnance de 45 est une des plus répressives d'Europe.
On est des victimes! C'est vrai, on est des victimes!
La fée, je l'ai croisée bien quand j'ai rencontré ma femme. Avec elle, c'était ma femme et c'était une mère aussi pour moi. Elle m'a entouré, elle m'a apporté de l'amour que je n'avais jamais connu. J'ai commencé à connaître moi mon premier Noël, c'est avec ma femme. Parce que je n'avais jamais eu de Noël. C'est elle qui m'a sorti de la merde, elle a eu du mal, parce que comme dire l'eau, j'étais pas un calot. Hein. Quand on s'est connus, je traînais. Hein. Et puis, elle a eu la force de tenir, et puis j'ai réussi dans la vie professionnelle, et au niveau du sport, je suis professeur de karaté, diplômé d'État, et puis...
Maintenant, là, aujourd'hui, là?
Oui, aujourd'hui. Oui, je donne des cours de karaté, et puis je suis arbitre national, je passe mes week-ends.
C'est une façon d'aider les gamins d'aujourd'hui.
Voilà, d'aider les gamins, oui. Parce que, étant donné que j'ai une petite jeunesse très dure, pour moi, la vie, c'est ça. C'est ça, pour moi.
Une petite jeunesse très dure. Merci à Jean Fayard, dit Jean-Jean. Merci à Jean-Jacques Ivorel, historien. Merci à l'autre historien, Jean-Luc Kennedy. Reportage Thierry Char, technique aujourd'hui Edwin Caron et Olivier Daligo. Le répondeur, c'est le numéro 01-56-40-37-37. Et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. C'est Coyenne Guyenne qui choisit les musiques des émissions de Là-bas, si j'y suis. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé celle-ci, modeste et géniale.